Mais ils sont plaisants, quand pour donner quelques certitudes aux lois, ils disent qu'il n'y en a aucune ferme, perpétuelle et immuable, qu'ils nomment naturelle, qui sont empreintes à l'humain genre par la condition de leur propre essence. Et de celles-là, qui en fait le nombre de trois, qui de quatre, qui plus, qui moins, signe que c'est une marque aussi douteuse que le reste. Or ils sont si défortunés, car comment puis-je nommer cela sinon des fortunes, que d'un nombre de lois si infini, il ne s'en rencontre au moins une que la fortune était méritée du sort et permis d'être universellement reçue par le consentement de toutes les nations. Ils sont, dis-je, si misérables que de ces trois ou quatre lois choisies, il n'y en a qu'une seule qui ne soit contredite et désavouée, et non par une nation, mais par plusieurs. Or, c'est la seule enseigne vraisemblable par laquelle il puisse augmenter aucune loi naturelle que l'université de l'approbation. Car ce que nature nous aurait véritablement ordonné, nous l'en suivrions sans doute d'un commun consentement. Et non seulement toute nation, mais tout homme particulier, ressentirait la force et la violence que lui ferait celui qui le voudrait pousser au contraire de cette loi. Qu'il m'en montre pour voir une de cette condition ? Protagoras et Ariston ne donnaient autre essence à la justice des lois que l'autorité et opinion du législateur. Et que cela mis à part, le bon et l'honnête perdaient leurs qualités et demeuraient des noms vains de choses indifférentes. Thrasymaque en Platon estime qu'il n'y a point d'autre droit que la commodité du supérieur. Il n'est chose en quoi le monde soit si divers qu'en coutumes et lois. Telle chose est ici abominable, qui apporte recommandation alors. Comment Lacédémone, la subtilité de dérober ? Et les mariages entre les proches sont capitalement défendus entre nous. Ils sont ailleurs en honneur. Le meurtre des enfants, meurtre des pères, communication de femmes, trafic de volerie, licence à toutes sortes de voluptés, il n'est rien, en somme, si extrême, qui ne se trouve reçu par l'usage de quelque nation. Il est croyable qu'il y a des lois naturelles, comme il se voit et s'autres créatures, mais en nous elles sont perdues. Cette belle raison humaine, s'ingérant partout de mépriser et commander, brouillant et confondant le visage des choses, selon sa vanité et inconstance. Nihil itaquern plius nostrum est, quod nostrum dico, artis est. Les sujets ont divers lustres et diverses considérations. C'est de là que s'engendre principalement la diversité d'opinions. Une nation regarde un sujet par un visage et s'arrête à celui-là, l'autre par un autre. Il n'est rien si horrible à imaginer que de manger son père. Les peuples qui avaient anciennement cette coutume l'apprenaient toutefois pour témoignage de piété et de bonne affection, cherchant par là à donner à leur progéniteur la plus digne et honorable sépulture, logeant en eux-mêmes et comme en leur moelle les corps de leurs pères et leurs reliques, les vivifiant aucunement et régénérant par la transmutation en leur chair vive au moyen de la digestion et du nourrissement. Il est aisé à considérer quelle cruauté et abomination c'eût été à des hommes abreuvés et imbus de cette superstition de jeter la dépouille des parents à la corruption de la terre et nourriture des bêtes et des vers. Lycurgue considéra au larcin la vivacité, diligence, hardiesse et adresse qu'il y a à surprendre quelque chose de son voisin et l'utilité qui revient au public que chacun regarde plus curieusement à la conservation de ce qui est sien et estima que de cette double institution à assaillir et à défendre, il sentirait du fruit à la discipline militaire qui était la principale science et vertu à quoi il voulait duire cette nation, de plus grande considération que n'était le désordre et la justice de se prévaloir de la chose d'autrui. Dionysus le tyran offrit à Platon une robe à la mode de Perse, longue, damasquinée et parfumée. Platon la refusa, disant qu'étant né homme, il ne se vêtirait pas volontiers de robe de femme. Mais Aristippe l'accepta, avec cette réponse que nul accoutrement ne pouvait corrompre un chaste courage. Ses amis tensaient sa lâcheté de prendre si peu à cœur que Dionysus lui eût craché au visage. « Les pêcheurs, dit-il, souffrent bien d'être baignés des ondes de la mer, depuis la tête jusqu'aux pieds, pour attraper un goujon. » Diogène lavait ses choux, et le voyant passer, « Oh, si tu savais vivre de choux, tu ne ferais pas la cour à un tyran. » À quoi Aristippe, « Si tu savais vivre entre les hommes, tu ne laverais pas des choux. » Voilà comment la raison fournit d'apparence à divers effets. C'est un pot à deux anses qu'on peut saisir à gauche et à dextre. On prêchait Solon de n'épandre pour la mort de son fils des larmes impuissantes et inutiles. Et c'est pour cela, dit-il, que plus justement je les épands, qu'elles sont inutiles et impuissantes. La femme de Socrate rengrogeait son deuil par telle circonstance. Oh, qu'injustement le font mourir ces méchants juges! Aimerais-tu donc mieux que ce fût justement? Lui répliqua-t-il. Nous portons les oreilles percées. Les Grecs tenaient cela pour une marque de servitude. Nous nous cachons pour jouir de nos femmes. Les Indiens le font en public. Les Scythes immolaient les étrangers en leurs temples, ailleurs les temples servent de franchise. J'ai ouï parler d'un juge, lequel, où il rencontrait un âpre conflit entre Bartholus et Baldus, et quelques matières agitées de plusieurs contrariétés, mettait en marge de son livre « Question pour l'ami », c'est-à-dire que la vérité était si embrouillée et débattue qu'en pareille cause, il pourrait favoriser celle des parties que bon lui semblerait. Il ne tenait qu'à faute d'esprit et de suffisance qu'il ne pût mettre partout « question pour l'ami ». Les avocats et les juges de notre temps trouvent à toute cause assez de billets pour les accommoder où bon leur semble. À une science si infinie, dépendant de l'autorité de tant d'opinions et d'un sujet si arbitraire, il ne peut être qu'il n'en laisse une confusion extrême de jugement. Aussi n'est-il guère si clair procès auquel les avis ne se trouvent divers. C'est qu'une compagnie a jugé, l'autre le juge au contraire, et elle-même au contraire une autre fois. De quoi nous voyons des exemples ordinaires par cette licence qui tâche merveilleusement la cérémonieuse autorité et lustre de notre justice de ne s'arrêter aux arrêts et courir les uns aux autres juges pour décider d'une même cause. Quant à la liberté des opinions philosophiques touchant le vice et la vertu, c'est chose où il n'est besoin de s'étendre et où il se trouve plusieurs avis qui valent mieux tus que publiés aux faibles esprits. Arcésilas disait n'être considérable en la paillardise de quel côté et par où on le fit. Ces deux derniers lieux stoïques, et sur ce propos le reproche de Diogarchus à Platon même, montrent combien la plus saine philosophie souffre de licences éloignées de l'usage commun et excessive. Les lois prennent leur autorité de la possession et de l'usage. Il est dangereux de les ramener à leur naissance. Elles grossissent et s'ennoblissent en roulant comme nos rivières. Suivez les contremonts jusqu'à leur source. Ce n'est qu'un petit surgeon d'eau à peine reconnaissable qui s'enorgueillit ainsi et se fortifie en vieillissant. Voyez les anciennes considérations qui ont donné le premier branle à ce fameux torrent plein de dignité, d'horreur et de révérence. Vous les trouverez si légers et si délicates que ces gens ici qui pèsent tout et leur amènent à la raison et qui ne reçoivent rien par autorité et à crédit. Il n'est pas merveille s'ils ont leur jugement souvent très éloigné des jugements publics. Gens qui prennent pour patron l'image première de nature, il n'est pas merveille si en la plupart de leurs opinions ils gauchissent la voie commune. Comme pour exemple, peu d'entre eux eussent approuvé les conditions contraintes de nos mariages, et la plupart ont voulu les femmes communes et sans obligation, ils refusaient nos cérémonies. Chrysippe disait qu'un philosophe fera une douzaine de culbutes en public, voire 100 hauts de chausses, pour une douzaine d'olives. À peine eut-il donné avis à Clisthénès de refuser la belle Agariste, sa fille, et à Hippoclides pour lui avoir vu faire l'arbre fourché sur une table. Métroclès lâcha un peu indiscrètement un paix en disputant en présence de son école et se tenait en sa maison caché de honte jusqu'à ce que Cratès le fût visité. Et ajoutant à ses consolations et raisons l'exemple de sa liberté, se mettant à péter à l'envi avec lui, il lui ôta ce scrupule, et de plus le retira à sa secte stoïque, plus franche de la secte péripatétique, plus civile, laquelle jusque-lors il avait suivi. Ce que nous appelons honnêteté de nos affaires à découvert, ce qui nous est honnête de faire à couvert, il l'appelait sottise. Et de faire le fin à terre et désavouer ce que nature, coutume et notre désir publient et proclament de nos actions, il l'estimait vice. Et leur semblait que c'était affoler les mystères de Vénus que de les ôter du retiré sacraire de son temple pour les exposer à la vue du peuple. Et que tirer ces jeux hors du rideau, c'était les perdre. C'est chose de poire que la honte. La recélation, réservation, circonscription, partie de l'estimation que la volupté très ingénieusement faisait instance sous le masque de la vertu, de n'être prostituée au milieu des carrefours, foulée des pieds et des yeux de la commune, trouvant à dire la dignité et commodité de ses cabinets accoutumés. De là, disent aucuns, que doter les bordels publics, c'est non seulement épandre partout la paillardise qui était assignée à ce lieu, mais encore aiguillonner les hommes vagabonds et oisifs à ce vice par la malfaisance. Cette expérience se diversifie en mille exemples. On demanda à un philosophe qu'on surprit à même ce qu'il faisait. Il répondit tout froidement « Je plante un homme, ne rougissant non plus d'être rencontré en cela que si on l'eût trouvé plantant des os. » C'est, comme j'estime, une opinion tendre, respectueuse, qu'un grand et religieux auteur tire cette action, si nécessairement obligée à l'occultation et à la vergogne, qu'en la licence des embrassements cyniques, il ne se peut persuader que la besogne en vit à sa fin, mais qu'elle s'arrêtait à représenter des mouvements lascifs seulement pour maintenir l'impudence de la profession de leur école, et que, pour élancer ce que la honte avait contraint et retiré, il leur était encore après besoin de chercher l'ombre. Ils n'avaient pas vu assez avant leur débauche. Car Diogène, exerçant en public sa masturbation, faisait souhait en présence du peuple assistant de pouvoir ainsi saouler son ventre en le frottant. À ceux qui lui demandaient pourquoi il ne cherchait lieu plus commode à manger qu'en pleine rue. « C'est, répondit-il, que J'ai faim en pleine rue. Les femmes philosophes qui se mêlaient à leur secte se mêlaient aussi à leur personne en tout lieu, sans discrétion. Et Hipparchia ne fut reçue en la société d'Écratès qu'à en condition de suivre en toutes choses les us et coutumes de la règle. Ces philosophes, ici, donnaient extrême prix à la vertu et refusaient toutes autres disciplines que la morale. Si est-ce qu'en toutes actions, ils attribuent la souveraine autorité à l'élection de leurs sages et au-dessus des lois, et n'ordonnaient aux voluptés et autres brides que la modération et la conservation de la liberté d'autrui. Héraclitus et Protagoras, de ce que le vin semble amer en malade, et gracieux au sein, l'aviron tortu dans l'eau et droit à ceux qui le voient hors de l'eau. Et de pareilles apparences contraires qui se trouvent au sujet, argumentèrent que tout sujet avait en eux les causes de ces apparences, et qu'il y avait au vin quelque amertume qui se rapportait au goût du malade, l'aviron, certaines qualités courbes se rapportant à celui qui le regarde dans l'eau, et ainsi de tout le reste. Qui est dire que tout est en toute chose et par conséquent rien en aucune, car rien n'est ou tout est. Cette opinion me remontait l'expérience que nous avons qu'il n'est aucun sens ni visage ou droit ou amer ou doux ou courbe que l'esprit humain se trouve aux écrits qu'il entreprend de fouiller. En la parole la plus nette, pure et parfaite qui puisse être, combien de faussetés et de mensonges a-t-on fait naître? Quelle hérésie n'y a trouvé des fondements assez et témoignages pour entreprendre et pour se maintenir? C'est pour cela que les auteurs de telles erreurs ne se veulent jamais départir de cette preuve du témoignage de l'interprétation des mots. Un personnage de dignité, me voulant approuver par autorité cette quête de la pierre philosophale où il est tout plongé, m'allégua dernièrement 5 ou 6 passages de la Bible sur lesquels il disait s'être premièrement fondé pour la décharge de sa conscience, car il est de profession ecclésiastique. Et à la vérité, l'invention n'en était pas seulement plaisante, mais encore bien proprement accommodée à la défense de cette belle science. Par cette voie se gagne le crédit des fables divinatrices. Il n'est prognostiqueur, s'il a cette autorité, qu'on le daigne feuilleter et rechercher curieusement tous les plis et lustres de ses paroles, à qui on ne fasse dire tout ce qu'on voudra, comme aux civils. Il y a tant de moyens d'interprétation qu'il est malaisé que de biais ou de droit fil un esprit ingénieux ne rencontre en tout sujet quelqu'air qui lui serve à son point. Pourtant, se trouve un style nubileux et douteux en si fréquent et ancien usage. Que l'auteur puisse gagner cela d'attirer en besogner à soi la postérité, ce que non seulement la suffisance, mais autant ou plus la faveur fortuite de la matière peut gagner, qu'au demeurant, il se présente par bêtise ou par finesse, un peu obscurément et diversement, ne lui chaille, nombre d'esprits le belutant et secouant, en exprimeront quantité de formes, selon ou à côté ou au contraire de la sienne, qui lui force et qui lui feront tout honneur. Il se verra enrichi des moyens de ses disciples, comme les régents du Landy. C'est ce qui a fait valoir plusieurs choses du néant, qui a mis en crédit plusieurs écrits et chargé de toutes sortes de matières qu'on a voulu. Une même chose, recevant 1000 et 1000 et autant qu'il vous plaît d'images et considérations diverses. Est-il possible qu'Homère ait voulu dire tout ce qu'on lui fait dire, et qu'il se soit prêté à tant de si diverses figures que les théologiens, législateurs, capitaines, philosophes, toutes sortes de gens qui traitent science pour diversement et contrairement qu'ils les traitent, s'appuient de lui, s'en rapportent à lui. Maître général à tous offices d'ouvrage et artisans, général conseiller à toutes entreprises, quiconque a eu besoin d'oracles et de prédictions en y a trouvé pour son fait. Un personnage savant et de mes amis, ces merveilles, quelle rencontre et combien admirable il fait naître en faveur de notre religion, et ne se peut aisément départir de cette opinion que ce ne soit le dessein d'Homère, si lui est cet auteur aussi familier qu'homme de notre siècle. Et ce qu'il trouve en faveur de la nôtre, plusieurs anciennement l'avaient trouvé en faveur des leurs. Voyez des menées agiter Platon, chacun s'honorant de l'appliquer à soi, le couche du côté qu'il le veut. On le promène et l'insère à toutes les nouvelles opinions que le monde reçoit. Et se diffèrent à soi-même selon le différent cours des choses. On fait désavouer à son sens les mœurs licites en son siècle, d'autant qu'elles sont illicites d'une autre. Tout cela vivement et puissamment, autant qu'est puissant et vif l'esprit de l'interprète. Sur ce même fondement qu'avait Héraclite et cette sienne sentence, que toute chose avait en elle le visage qu'on y trouvait, Démocrite en tirait une toute contraire conclusion. C'est que les sujets n'avaient du tout rien de ce que nous y trouvions, et de ce que le miel était doux à l'un et amer à l'autre, il argumentait qu'il n'était ni doux ni amer. Les Pyrrhoniens diraient qu'ils ne savent s'il est doux ou amer, ou ni l'un ni l'autre, ou tous les deux, car ceci gagne toujours le haut point de la dubitation. Les Cyrénéens tenaient que rien n'était perceptible par le dehors et que cela était seulement perceptible qui nous touchait par l'interne attouchement comme la douleur et la volupté, ne reconnaissant ni ton ni couleur, mais certaines affections seulement qui nous en venaient, et que l'homme n'avait d'autre siège de son jugement. Protagoras estimait être vrai à chacun ce qui semble à chacun. Les épicuriens logent au sens tout jugement et en la notice des choses et en la volupté. Platon a voulu le jugement de la vérité et la vérité même retirer des opinions et des sens appartenir à l'esprit et à la cogitation. Ce propos m'a porté sur la considération des sens, auxquels j'ai le plus grand fondement et preuve de notre ignorance. Tout ce qui se connaît, il se connaît sans doute par la faculté du connaissant, car puisque le jugement vient de l'opération de celui qui juge, c'est raison que cette opération, il la parfasse par ses moyens et volontés, non par la contrainte d'autrui. Comme il adviendrait si nous connaissions les choses par la force et selon la loi de leur essence. Or, toute connaissance s'achemine en nous par les sens. Ce sont nos maîtres. La science commence par eux et se résout en eux. Après tout, nous ne serions non plus qu'une pierre si nous ne savions qu'il y a son, odeur, lumière, saveur, mesure, poids, mollesse, dureté, âpreté, couleur, polissure, largeur, profondeur. Voilà le plan et les principes de tout le bâtiment de notre science. Et selon aucun, science n'est rien autre chose que sentiment. Quiconque me peut pousser à contredire les sens, il me tient à la gorge, il ne me saurait faire reculer plus arrière. Les sens sont le commencement et la fin de l'humaine connaissance. Qu'on leur attribue le moins qu'on pourra, Toujours faudra-t-il leur donner cela, que par leur voix et entremise s'achemine toute notre destruction. Cicéron dit que Chrysippe, ayant essayé de rabattre de la force des sens et de leur vertu, se représenta à soi-même des arguments au contraire et des oppositions si véhémentes qu'il n'y put satisfaire. Sur quoi Carnéade, qui maintenait le contraire parti, se vantait de se servir des armes mêmes et paroles de Chrysippe pour le combattre, et s'écriait à cette cause contre lui. « Oh, misérable, ta force t'a perdu. Il n'est aucun absurde, selon nous, plus extrême que de maintenir que le feu n'échauffe point, que la lumière n'éclaire point, qu'il n'y a point de pesanteur au fer, ni de fermeté, qui sont notices que nous apportent les sens, ni créance ou science de l'homme qui se puisse comparer à celle-là en certitude. » La première considération que j'ai sur le sujet des sens est que je mets en doute que l'homme soit pourvu de tout sens naturel. Je vois plusieurs animaux qui vivent une vie entière et parfaite, les uns sans la vue, autres sans l'ouïe. Qui sait si à nous aussi il ne manque pas encore un, deux, trois et plusieurs autres sens? Car s'il en manque quelqu'un, notre discours n'en peut découvrir le défaut. C'est le privilège des sens d'être à l'extrême borne de notre apercevance. Il n'y a rien au-delà d'eux qui nous puisse servir à les découvrir. Voire, ni l'un sens n'en peut découvrir l'autre. Ils font traire tout cela de ligne extrême de notre faculté. Il est impossible de faire concevoir à un homme naturellement aveugle qu'il n'y voit pas, impossible de lui faire désirer la vue et regretter son défaut. Par quoi nous ne devons prendre aucune assurance de ce que notre âme est contente et satisfaite de ce que nous avons, vu qu'elle n'a pas de quoi sentir en cela sa maladie et son imperfection, si elle y est. Il est impossible de dire chose à cet aveugle par discours, arguments, ni similitudes, qui loge en son imagination aucune appréhension de lumière, de couleur et de vue. Il n'y a rien plus arrière qui puisse pousser le sens en évidence. Les aveugles nés qu'on voit désirer avoir, ce n'est pas pour entendre ce qu'ils demandent. Ils ont appris de nous qu'ils ont à dire quelque chose, qu'ils ont quelque chose à désirer, qui est en nous, laquelle ils nomment bien, et ses effets et conséquences. Mais ils ne savent pourtant pas ce que c'est, ni ne l'appréhendent ni près ni loin. J'ai vu un gentilhomme de bonne maison, aveugle né, au moins aveugle de tel sage, qui ne sait ce que c'est que de vue. Il entend si peu ce qui lui manque, qu'il use et se sert comme nous des paroles propres au voir et les applique d'une mode toute sienne et particulière. On lui présentait un enfant duquel il était parrain. L'ayant pris entre ses bras, « Mon Dieu, dit-il, le bel enfant, oh, qu'il fait beau voir, qu'il a le visage gai. Il dira comme l'un d'entre nous, « Oh, cette salle a une belle vue, il fait clair, il fait beau, soleil. » Il y a plus, car parce que ce sont nos exercices que la chasse, la paume, la butte, et qu'il en a ouï dire, il s'y affectionne et s'y embesogne, et croit y avoir la même part que nous y avons, il s'y pique et s'y plaît, et ne le reçoit pourtant que par les oreilles. On lui crie que voilà un lièvre, quand on est en quelque belle esplanade où il puisse piquer, et puis on lui dit encore que voilà un lièvre pris. Alors le voilà aussi fier de sa prise, comme il entend dire aux autres qu'ils le sont. L'estuf, il le prend à la main gauche et le pousse à toute sa raquette. De la harquebouse, il en tire l'aventure et se paye de ce que ces gens lui disent, qu'il est houeux ou cotier. Que sait-on si le genre humain fait une sottise pareille, à faute de quelque sens, et que par ce défaut, la plupart du visage des choses nous soit caché? Que sait-on si les difficultés que nous trouvons en plusieurs ouvrages de nature viennent de là? Et si plusieurs effets des animaux qui excèdent de notre capacité sont produits par la faculté de quelque sens que nous ayons à dire? Et si aucun d'entre eux ont une vie plus pleine par ce moyen et entière que la nôtre? Nous saisissons la pomme quasi par tous nos sens. Nous y trouvons de la rougeur, de la polissure, de l'odeur, de la douceur. Outre cela, elle peut avoir d'autres vertus, comme d'assécher ou restreindre, auxquelles nous n'avons point de sens qui se puisse rapporter. Les propriétés que nous appelons occultes en plusieurs choses, comme à l'aimant d'attirer le fer, n'est-il pas vraisemblable qu'il y a des facultés sensitives en nature propres à les juger et à les apercevoir, et que le défaut de telles facultés nous apporte l'ignorance de la vraie essence de telles choses? C'est à l'aventure quelque sens particulier qui découvre au coq l'heure du matin et du midi et du minuit et les émeut à chanter. Qui apprend aux poules, avant tout usage et expérience, de craindre un espervier et non une oie, ni un paon plus grande bête? Et qui avertit les poulets de la qualité hostile qui est au chat contre eux et à ne se défier du chien? S'armer contre le miaulement, voix aucunement flatteuse, non contre l'aboyer, voix âpre et querelleuse. Aux frelons, aux fourmis et aux rats, de choisir toujours le meilleur fromage et la meilleure poire, avant que d'y avoir tâté. Et qui achemine le cerf, l'éléphant et le serpent à la connaissance de certaines herbes propres à leur guérison? Il n'y a sens qui n'ait une grande domination et qui n'apporte par son moyen un nombre infini de connaissances. Si nous avions à dire l'intelligence des sons, de l'harmonie et de la voix, cela apporterait une confusion inimaginable à tout le reste de notre science. Car, outre ce qui est attaché au propre effet de chaque chance, combien d'arguments, de conséquences et de conclusions tirons-nous aux autres choses par la comparaison de l'un sens à l'autre? Qu'un homme entendu imagine l'humaine nature, produite originellement sans la vue et le discours, combien d'ignorance et de trouble lui apporterait un tel défaut, combien de ténèbres et d'aveuglement en notre âme? On verra par là combien nous importe à la connaissance de la vérité la privation d'un autre tel sens, ou de deux ou de trois, si elle est en nous. Nous avons formé une vérité par la consultation et concurrence de nos cinq sens, mais à l'aventure, fallait-il l'accord de 8 ou de 10 sens et de leur contribution pour l'apercevoir certainement et en son essence? Les sectes qui combattent la science de l'homme, elles la combattent principalement par l'incertitude et faiblesse de nos sens, car puisque toute connaissance vient en nous par leur entreprise et moyens, s'ils faillent au rapport qu'ils nous font, s'ils corrompent ou altèrent ce qu'ils nous charrient du dehors, si la lumière qui par eux s'écoule en notre âme est obscurcie au passage, nous n'avons plus que tenir. De cette extrême difficulté sont nées toutes ces fantaisies, que chaque sujet en soit tout ce que nous y trouvons et qu'il n'a rien de ce que nous y pensons trouver. Et celle des épicuriens, que le soleil n'est non plus grand que ce que notre vue le juge, que les apparences qui représentent un corps grand à celui qui en est voisin et plus petit à celui qui en est éloigné sont toutes deux vraies, et résolument qu'il n'y a aucune tromperie au sens, qu'il faut passer à leur merci et chercher ailleurs des raisons pour excuser la différence et contradiction que nous y trouvons. même inventer toute autre mensonge et rêverie, ils en viennent jusque-là, plutôt que d'accuser les sens. Timagoras jurait que pour presser ou biaiser son œil, il n'avait jamais aperçu doubler la lumière de la chandelle, et que cette semblance venait du vice de l'opinion, non de l'instrument. De toutes les absurdités, la plus absurde aux épicuriens est désavouer la force et l'effet des sens. Ce conseil désespéré et si peu philosophique ne représente autre chose sinon que l'humaine science ne se peut maintenir que par raison déraisonnable, folle et forcenée. Mais qu'encore vaut-il mieux que l'homme, pour se faire valoir, s'en serve, et de tout autre remède tout fantastique soit-il, que d'avouer sa nécessaire bêtise, vérité si désavantageuse. Il ne peut fuir que les sens ne soient les souverains maîtres de sa connaissance, mais ils sont incertains et falsifiables à toutes circonstances. C'est là où il faut battre à outrance. Et si les forces justes nous faillent comme elles font, y employer l'opiniâtreté, la témérité, l'impudence. Au cas que ce que disent les épicuriens soit vrai, à savoir que nous n'avons pas de science si les apparences des sens sont fausses, et ce que disent les stoïciens s'il est aussi vrai que les apparences des sens sont si fausses qu'elles ne nous peuvent produire aucune science, nous conclurons aux dépens de ces deux grandes sectes dogmatistes qu'il n'y a point de science. Quant à l'erreur et incertitude de l'opération des sens, chacun s'en peut fournir autant d'exemples qu'il lui plaira, tant les fautes et tromperies qu'ils nous font sont ordinaires. Au retentir d'un vallon, le son d'une trompette semble venir devant nous ou qui vient d'une lieue derrière. À manier une balle d'arquebuse sous le second doigt, celui du milieu étant entrelacé par-dessus, il faut extrêmement se contraindre pour avouer qu'il n'y en est qu'une, tant le sens nous en représente deux. Car que les sens soient maintes fois maîtres du discours et le contraignent de recevoir des impressions qu'il sait et juge être fausses, il se voit à tout coup. Je laisse à part celui de l'attouchement qui a des fonctions plus voisines, plus vives et substantielles, qui renverse tant de fois par l'effet de la douleur qu'il apporte au corps toutes ces belles résolutions stoïques, et contraint de crier au ventre celui qui a établi en son âme ce dogme avec toute résolution, que la colique, comme toute autre maladie et douleur, est chose indifférente, n'ayant la force de rien rabattre du souverain bonheur et félicité en laquelle le sage est logé par sa vertu. Il n'est cœur si molle que le son de nos tambourins et de nos trompettes n'échauffe, ni si dur que la douceur de la musique n'éveille et ne chatouille, ni âme si revêche qui ne se sente touchée de quelque révérence à considérer cette vastité sombre de nos églises, la diversité d'ornements et ordre de nos cérémonies, et ouïr le son dévotieux de nos orgues et l'harmonie si posée et religieuse de nos voix. Ceux mêmes qui y entrent avec mépris sentent quelques frissons dans le cœur et quelque horreur qui les mettent en défiance de leur opinion. Quant à moi, je ne m'estime point assez fort pour ouïr en sens rassis des vers d'Horace et de Catulle chantés d'une voix suffisante par une belle et jeune bouche. Et Zénon avait raison de dire que la voix était la fleur de la beauté. On m'a voulu faire à croire qu'un homme que tous nous autres Français connaissons m'avait imposé en me récitant des vers qu'il avait faits, qui n'étaient pas tels sur le papier qu'en l'air, et que mes yeux en feraient contraire jugement à mes oreilles, tant la prononciation a de crédit à donner prix et façon aux ouvrages qui passent à sa merci. Sur quoi Philoxénus ne fut pas fâcheux en se cueillant, donner mauvais ton à quelques siennes compositions, il se prit à fouler aux pieds et casser de la brique qui était à lui, disant « Je romps ce qui est à toi comme tu corromps ce qui est à moi. » À quoi faire ceux-mêmes qui se sont donné la mort d'une certaine résolution? Détournaient-ils la face pour ne voir le coup qu'ils se faisaient donner? Et ceux qui, pour leur santé, désirent et commandent qu'on les incise et cautérise, ne peuvent soutenir la vue des apprêts, outils et opérations du chirurgien, attendu que la vue ne doit avoir aucune participation à cette douleur. Ceux-là ne sont-ce pas propres exemples à vérifier l'autorité que les sens ont sur le discours? Nous avons beau savoir que ces tresses sont empruntées d'un page ou d'un laquais, que cette rougeur est venue d'Espagne et cette blancheur et polissure de la mer Océane, encore faut-il que la vue nous force d'en trouver le sujet plus aimable et plus agréable contre toute raison. Car en cela, il n'y a rien du sien. Combien donnent à la force des sens les poètes qui sont Narcisse et perdus de l'amour de son ombre? Et l'entendement de Pygmalion, si troublé par l'impression de la vue de sa statue d'ivoire qu'il aime et la serve pour vivre? Qu'on loge un philosophe dans une cage de menus filets de fer clairsemés qui soient suspendus au haut des tours Notre-Dame de Paris. Il verra, par raison évidente, qu'il est impossible qu'il en tombe. Et s'il ne se saurait garder, s'il n'a accoutumé le métier des couvreurs, que la vue de cette hauteur extrême ne l'épouvante et ne le transisse. Car nous avons assez à faire de nous assurer aux galeries qui sont en nos clochers, si elles sont façonnées à jour encore, qu'elles soient de pierre. Il y en a qui n'en peuvent pas seulement porter la pensée. Qu'on jette une poutre entre ces deux tours d'une grosseur telle qu'il nous la faut à nous promener dessus, il n'y a sagesse philosophique de si grande fermeté qui puisse nous donner courage d'y marcher comme nous ferions si elle était à terre. J'ai souvent essayé cela en nos montagnes de Deçà, et si suis de ceux qui ne s'effraient que médiocrement de telles choses, que je ne pouvais souffrir la vue de cette profondeur infinie sans horreur et tremblement de jarret et de cuisse, encore qu'il s'en fallût bien ma longueur, que je ne fusse du tout au bord et n'eusse su choir si je me fusse porté à escient au danger. J'ai remarqué aussi quelque hauteur qu'il y eût, pourvu qu'en cette pente il s'y présentât un arbre ou bosse de rocher pour soutenir un peu la vue et la diviser, que cela nous allège et donne assurance, comme si c'était chose de quoi à la chute nous pensions recevoir au secours. Mais que les précipices coupés et unis, nous ne les pouvons pas seulement regarder sans tournoiement de tête. Ce fut pourquoi ce beau philosophe se creva les yeux pour décharger l'âme de la débauche qu'elle recevait et pouvoir philosopher plus en liberté. Mais à ce compte, il se devait aussi faire estouper les oreilles, que Théophraste dit être le plus dangereux instrument que nous ayons pour recevoir des impressions violentes à nous troubler et changer, et se devait priver à la fin de tous les autres sens, c'est-à-dire de son être et de sa vie, car ils ont tous cette puissance de commander notre discours et notre âme. Les médecins tiennent qu'il y a certaines complexions qui s'agitent par aucun son et instrument jusque à la fureur. J'en ai vu qui ne pouvaient ouïr ronger un os sous leur table sans perdre patience, et n'est guère homme qui ne se trouble à ce bruit aigre et poignant que font les limes en raclant le fer. Comme à ouïr mâcher près de nous et ouïr parler quelqu'un qui est le passage du gosier ou du nez empêché, plusieurs s'en émeuvent jusqu'à la colère et à la haine. Ce flûteur protocole de Gracchus, qui amollissait, raidissait et contournait la voix de son maître lorsqu'il haranguait à Rome, à quoi servait-il? si le mouvement et qualité du son n'avaient force à émouvoir et altérer le jugement des auditeurs. Vraiment, il y a bien de quoi faire si grande fête de la fermeté de cette belle pièce, qui se laisse manier et changer au branle les accidents d'un si léger vent. Cette même piperie que les sens apportent à notre entendement, ils la reçoivent à leur tour. Notre âme, parfois, s'en revanche de même. Ils mentent et se trompent à l'envi. Ce que nous voyons et voyons agité de colère, nous ne l'aurions pas tel qu'il est. L'objet que nous aimons nous semble plus beau qu'il n'est, et plus laid celui que nous avons à contre-cœur. À un homme ennuyé et affligé, la clarté du jour semble obscurcie et ténébreuse. Nos sens sont non seulement altérés, mais souvent hébétés du tout par les passions de l'âme. Combien de choses voyons-nous que nous n'apercevons pas si nous avons notre esprit empêché ailleurs? Il semble que l'âme retire au-dedans et amuse les puissances des sens. Par ainsi, et le dedans et le dehors de l'homme est plein de faiblesses et de mensonges. Ceux qui ont apparié notre vie à un songe ont eu de la raison, à l'aventure, plus qu'ils ne pensaient. Quand nous songeons, notre âme vit, agit, exerce toutes ses facultés, ne plus de moins que quand elle veille. Mais si plus mollement et obscurément, non de temps, certes, que la différence y soit comme de la nuit à une clarté vive. Oui, comme de la nuit à l'ombre. Là, elle dort, ici, elle sommeille. Plus et moins, ce sont toujours ténèbres et ténèbres cimmériennes. Nous veillons, dormons, et veillant, dormons. Je ne vois pas si clair dans le sommeil, mais quant au veillé, je ne le trouve jamais assez pur et sans nuage. Encore le sommeil, en sa profondeur, endort parfois les songes, mais notre veillé n'est jamais si éveillé qu'il purge et dissipe bien à point les rêveries qui sont les songes des veillants et pire que les songes. Notre raison et notre âme, recevant les fantaisies et opinions qui lui naissent en dormant, et autorisant les actions de nos songes de pareille approbation, qu'elle fait celle du jour, pourquoi, ne mettons-nous en doute, si notre pensée, notre agir, n'est pas à notre songer, notre veiller, quelque espèce de dormir? Si les sens sont nos premiers juges, ce ne sont pas les nôtres qu'il faut seul appeler au conseil, car en cette faculté, les animaux ont autant ou plus de droits que nous. Il est certain qu'aucun ont l'ouïe plus aiguë que l'homme, d'autres la vue, d'autres le sentiment, d'autres l'attouchement ou le goût. Démocrite disait que les dieux et les bêtes avaient les facultés sensitives beaucoup plus parfaites que l'homme. Or, entre les effets de leurs sens et les nôtres, la différence est extrême. Notre salive nettoie et assèche nos plaies. Elle tue le serpent. Quelle qualité donnerons-nous à la salive, ou selon nous, ou selon le serpent? Par quel des deux sens vérifierons-nous sa véritable essence que nous cherchons? Pline dit qu'il y a aux Indes certains lièvres marins qui nous sont poisons et nous à eux, de manière que du seul attouchement, nous les tuons. Qui sera véritablement poison, ou l'homme ou le poisson? À qui en croirons-nous, ou au poisson de l'homme ou à l'homme du poisson? Quelque qualité d'air infecte l'homme qui se nuit point au bœuf? Quelque autre le bœuf qui ne nuit point à l'homme? Laquelle des deux sera en vérité en nature pestilente qualité? Ceux qui ont la jaunisse, ils voient toute chose jaunâtre et plus pâle que nous. Ceux qui ont cette maladie que les médecins appellent hyposphragma, qui est une suffusion de sang sous la peau, voient toute chose rouge et sanglante. Ces humeurs qui changent ainsi les opérations de notre vue, que savons-nous si elles prédominent aux bêtes et leur sont ordinaires? car nous en voyons les unes qui ont les yeux jaunes, comme nos malades de jaunisse, d'autres qui les ont sanglants de rougeur. À celle-là, il est vraisemblable que la couleur des objets paraît autre qu'à nous. Mais quel jugement des deux sera le vrai? Car il n'est pas dit que l'essence des choses se rapporte à l'homme seul. La dureté, la blancheur, la profondeur et l'aigreur touchent le service et science des animaux comme la nôtre. Nature leur a donné l'usage comme à nous. Quand nous pressons l'œil, les corps que nous regardons, nous les apercevons plus longs et étendus. Plusieurs bêtes ont l'œil ainsi prélé. Cette longueur est donc à l'aventure la véritable forme de ce corps, non pas celle que nos yeux lui donnent en leur assiette ordinaire. Si nous serrons l'œil par-dessous, les choses nous semblent doubles. Si nous avons les oreilles empêchées de quelque chose ou le passage de l'ouïe resserré, nous recevons le son autre que nous ne faisons ordinairement. Les animaux qui ont les oreilles velues ou qui n'ont qu'un bien petit trou au lieu de l'oreille, ils n'oient pas par conséquent pas du tout ce que nous voyons et reçoivent la son tout à fait autre. Nous voyons aux fêtes et au théâtre, composant à la lumière des flambeaux une vitre teinte de quelque couleur, tout ce qui est en ce lieu nous apparaît ou vert ou jaune ou violet. Il est vraisemblable que les yeux des animaux, que nous voyons être de diverses couleurs, leur produisent les apparences des corps de même à leurs yeux. Pour le jugement de l'opération des sens, il faudrait donc que nous en fussions premièrement d'accord avec les bêtes, secondement entre nous-mêmes, ce que nous ne sommes aucunement, et entrons en débat tous les coups de ce que l'on voit ou goûte quelque chose autrement qu'un autre, et débattons autant que d'autres choses de la diversité des images que les sens nous apportent. Autrement voit et voit par la règle ordinaire de nature, et autrement goûte un enfant qu'un homme de 30 ans, et séduit-ci autrement qu'un sexagénaire. Les sens sont aux uns plus obscurs et plus sombres, aux autres plus ouverts et plus aigus. Nous recevons les choses autres et autres selon que nous sommes et qu'ils nous semblent. Or, notre semblée étant si incertain et controversé, ce n'est plus miracle si on nous dit que nous pouvons avouer que la neige nous apparaît blanche, mais que d'établir si de son essence elle est telle, et à la vérité, nous nous en saurions répondre. Et ce commencement ébranlé, et toute la science du monde s'en va nécessairement à volo. Quoi, que nos sens mêmes s'entrempêchent l'un l'autre? Une peinture semble élevée à la vue, au maniement, elle semble plate. Dirons-nous que le musc soit agréable ou non, qui réjouit notre sentiment et offense notre goût? Il y a des herbes et des onguents propres à une partie du corps qui en blessent une autre. Le miel est plaisant au goût, mal plaisant à la vue. Ces bagues, qui sont entaillées en forme de plume, qu'on appelle en devise « peine sans fin », il y a œil qui en puisse discerner la largeur et qui se sût défendre de cette piperie, que d'un côté elle n'aille en élargissant et s'appointant et estrécissant par l'autre, même quand on a la roule autour du doigt. Toutefois, au maniement, elle vous semble égale en longueur et en largeur partout pareille. Ces personnes qui, pour aider leur volupté, se servaient anciennement de miroirs propres à grossir et agrandir l'objet qu'ils représentent, afin que les membres qu'ils avaient à embesogner leur plus davantage par cette accroissance oculaire, auquel des deux sens donnaient-ils gagné, ou à la vue qui leur représentait ces membres gros et grands à souhait, ou à l'attouchement qui leur présentait petits et dédaignables? Sont-ce nos sens qui prêtent au sujet ces diverses conditions, et que les sujets n'en aient pourtant qu'une? Comme nous voyons du pain que nous mangeons, ce n'est que pain, mais notre usage en fait des os, du sang, de la chair, des poils et des ongles. L'humeur que suce la racine d'un arbre, elle se fait tronc, feuilles et fruits, et l'air n'étant qu'un, il se fait par l'application à une trompette divers en mille sortes de sons. Sont, se dis-je, nos sens qui façonnent d'eux-mêmes de différentes qualités ces sujets, ou s'ils les ont tels? Et sur ce doute, que pouvons-nous résoudre de leur véritable essence? Davantage, puisque les accidents des maladies, de la rêverie ou du sommeil, nous font paraître les choses autres qu'elles ne paraissent aux saints, aux sages et à ceux qui veillent. N'est-il pas vraisemblable que notre assiette droite et nos humeurs naturelles ont aussi de quoi donner un être aux choses, se rapportant à leurs conditions et les accommoder à soi, comme font les humeurs déréglées, et notre santé aussi capable de leur fournir son visage comme la maladie? Le dégoûté change la fadeur au vin, le sain la saveur, l'altéré la friandise. Or notre état, accommodant les choses à soi et les transformant selon soi, nous ne savons plus quelles sont les choses en vérité, car rien ne vient à nous que falsifié et altéré par nos sens. Où le compas, l'équerre et la règle sont gauches, toutes les proportions qui s'en tirent, tous les bâtiments qui se dressent à leur mesure, sont aussi nécessairement manqués et défaillants. L'incertitude de nos sens rend incertain tout ce qu'ils produisent. Au demeurant, qui sera propre à juger de ces différences? Comme nous disons au débat de la religion qu'il nous faut un juge non attaché à l'un ni à l'autre parti, exempt de choix et d'affection, ce qui ne se peut parmi les chrétiens, il advient de même en ceci. Car s'il est vieil, il ne peut juger du sentiment de la vieillesse, étant lui-même parti en ce débat. S'il est jeune de même, saint de même malade, dormant, éveillant, il nous faudrait quelqu'un exempt de toutes ses qualités, afin que, sans préoccupation de jugement, il jugeât de ses propositions comme à lui indifférentes, et à ce compte, il nous faudrait un juge qui ne le fût pas. Pour juger les apparences que nous recevons des sujets, il nous faudrait un instrument judicatoire. Pour vérifier cet instrument, il nous y faut de la démonstration. Et pour vérifier la démonstration, un instrument, alors nous voilà au rouet. Puisque les sens ne peuvent arrêter notre dispute, étant pleins eux-mêmes d'incertitude, il faut que ce soit la raison. Aucune raison ne s'établira sans une autre raison. Nous voilà à reculons jusqu'à l'infini. Notre fantaisie ne s'applique pas aux choses étrangères, mais elle est conçue par l'entreprise des sens, et les sens ne comprennent pas le sujet étranger, mais seulement leur propre passion. Et par ainsi, la fantaisie et apparence n'est pas du sujet, mais seulement de la passion et souffrance du sens, laquelle passion et sujet sont choses diverses. Par quoi qui juge par les apparences, juge par choses autres que le sujet. Et de dire que les passions des sens rapportent à l'âme la qualité des sujets étrangers par ressemblance, comment se peut l'âme et l'entendement assurer de cette ressemblance, n'ayant de soi nul commerce avec les sujets étrangers? Tout ainsi comme, qui ne connaît pas Socrate, voyant son portrait, ne peut dire qu'il lui ressemble, ce qui voudrait toutefois juger par les apparences. Si c'est par toutes, il est impossible, car elles s'entrepêchent par leurs contrariétés et discrépances, comme nous voyons par expérience. Sera-ce qu'aucune apparence choisie règle les autres? Faudra vérifier celle choisie par une autre choisie, la seconde par la tierce, et par ainsi ce ne sera jamais fait. Finalement, il n'y a aucune constante existence, ni de notre être, ni de celui des objets. Et nous, et notre jugement, et toutes choses mortelles, vont coulant et roulant sans cesse. Ainsi, il ne se peut établir rien de certain de l'un à l'autre, et le jugeant et le jugé étant en continuelle mutation et branle. Nous n'avons aucune communication à l'être, parce que toute humaine nature est toujours au milieu entre le naître et le mourir, ne bâillant de soi qu'une obscure apparence et ombre, et une incertaine et débile opinion. Et si de fortune vous fichez votre pensée à vouloir prendre son être, ce sera de plus de moins que qui voudrait empoigner l'eau, car tant plus il serra et pressera ce qui de sa nature coule partout, tant plus il perdra ce qu'il voulait tenir et empoigner. Ainsi, vu que toutes choses sont sujettes à passer d'un changement en autre, la raison qui cherche une réelle subsistance se trouve déçue, ne pouvant rien appréhender de subsistant et permanent. Parce que tout ou vient en être et n'est pas encore du tout ou commence à mourir avant qu'il soit né. Platon disait que les corps n'avaient jamais existence, oui bien naissance, estimant qu'Homère eût fait l'océan par des dieux et Tétis la mer, pour nous montrer que toutes choses sont en fluxion, nuances et variations perpétuelles. Opinion commune à tous les philosophes avant son temps, comme il dit, sauf le seul Parménide, qui refusait mouvement aux choses, de la force duquel il fait grand cas. Pythagore, que toute matière est coulante et labile. Les stoïciens, qu'il n'y a point de temps présent, et que ce que nous appelons présent n'est que la jointure et assemblage du futur et du passé. Héraclite, que jamais homme n'était deux fois entré en même rivière. Épicarme, que celui qui à pied ça a emprunté de l'argent ne le doit pas maintenant, et que celui qui cette nuit a été convié à venir ce matin dîner vient aujourd'hui non convié, attendu que ce ne sont plus eux, ils sont devenus autres, et qu'il ne se pouvait trouver une substance mortelle deux fois en même état, car par soudaineté et légèreté de changement, tantôt elle dissipe, tantôt elle rassemble, elle vient et puis s'en va, de façon que ce qui commence à naître ne parvient jamais jusqu'à perfection d'être. Pour autant que ce naître n'achève jamais et jamais n'arrête, comme étant à bout, mais depuis la semence va toujours se changeant et muant de l'un à l'autre. Comme de semence humaine se fait premièrement dans le ventre de la mère un fruit sans forme, puis un enfant formé, puis étant hors du ventre un enfant de mamelle, après il devient garçon, puis conséquemment un jouvenceau, après un homme fait, puis un homme d'âge, à la fin décrépit de vieillard. De manière que l'âge et génération subséquente va toujours défaisant et gâtant la précédente. Et puis nous autres, sottement, craignons une espèce de mort là où nous en avons déjà passé et en passons tant d'autres. Car non seulement, comme disait Héraclite, la mort du feu est génération de l'air et la mort de l'air génération de l'eau, mais encore plus manifestement le pouvons-nous voir en nous-mêmes. La fleur d'âge se meurt et passe quand la vieillesse survient, et la jeunesse se termine en fleur d'âge d'homme fait. L'enfance en la jeunesse, et le premier âge meurt en l'enfance, et le jour d'hier meurt en celui d'aujourd'hui, et le jour d'hui mourra en celui de demain. Il n'y a rien qui demeure, ni qui soit toujours un. Car qu'il soit ainsi, si nous demeurons toujours mêmes et un, comment est-ce que nous nous éjouissons maintenant d'une chose et maintenant d'une autre? Comment est-ce que nous aimons choses contraires ou les haïssons, nous les louons, nous les blâmons? Comment avons-nous différentes affections, ne retenant plus le même sentiment, la même pensée? Car il n'est pas vraisemblable que sans mutation nous prenions autre passion. Et ce qui souffre mutation ne demeure pas un même, et s'il n'est pas un même, il n'est donc pas aussi. Mais quand et quand l'être tout un change aussi l'être simplement, devenant toujours autre d'un autre. Et par conséquent, se trompent et mentent les sens de nature, prenant ce qui apparaît pour ce qui est, à faute de bien savoir que c'est qui est. Mais qu'est-ce donc qui est véritablement ? Ce qui est éternel, c'est-à-dire qui n'a jamais eu de naissance, ni n'aura jamais fin, à qui le temps n'apporte jamais aucune mutation. Car c'est chose mobile que le temps, et qui apparaît comme en ombre avec la matière courante et fluente toujours, sans jamais demeurer stable ni permanente. À qui appartiennent ces mots, devant et après, et a été ou sera ? Lesquels, tout de prime face, montrent évidemment que ce n'est pas chose qui soit, car ce serait grande sottise et fausseté, tout apparente, de dire que cela soit qui n'est pas encore en être, ou qui déjà a cessé d'être. Et quant à ces mots présent, instant, maintenant, par lesquels il semble que principalement nous soutenons et fondons l'intelligence du temps, la raison, le découvrant, le détruit tout sur le champ, car elle le fend incontinent et le partit en futur et en passé, comme le voulant voir nécessairement des parties en deux. Autant en advient-il à la nature, qui est mesurée comme autant qui la mesure. Car il n'y a non plus en elle rien qui demeure, ni qui soit subsistant, mais ils sont toutes choses ou nées, ou naissantes, ou mourantes. Au moyen de quoi ce serait péché de dire de Dieu, qui est le seul qui est, qu'il fut ou il sera, car ces termes-là sont déclinaisons, passages ou vicissitudes de ce qui se peut durer ni demeurer en être. Par quoi il faut conclure que Dieu seul est, non point selon aucune mesure du temps, mais selon une éternité immuable et immobile, non mesurée par temps ni sujette à aucune déclinaison, devant lequel rien n'est réglé, ni ne sera après, ni plus tôt, nouveau ou plus récent, mais un réellement étant, qui par un seul maintenant emplit le toujours, et n'y a rien qui véritablement soit que lui seul, sans qu'on puisse dire « il a été ou il sera », sans commencement et sans fin. À cette conclusion si religieuse d'un homme païen, je veux joindre seulement ce mot d'un témoin de même condition pour la fin de ce long et ennuyeux discours qui me fournirait de matière sans fin. « Oh, la vile chose, dit-il, et abjecte que l'homme, s'il ne s'élève au-dessus de l'humanité. Voilà un bon mot et un utile désir, mais pareillement absurde. Car de faire la poignée plus grande que le poing, la brassée plus grande que le bras, et d'espérer enjamber plus que de l'étendue de nos jambes, cela est impossible et monstrueux. Ni que l'homme se monte au-dessus de soi et de l'humanité, car il ne peut voir que de ses yeux, ni saisir que de ses prises. Il s'élèvera si Dieu lui prête extraordinairement la main. Il s'élèvera abandonnant et renonçant à ses propres moyens et se laissant hausser et soulever par les moyens purement célestes. C'est à notre foi chrétienne, non à sa vertu stoïque, de prétendre à cette divine et miraculeuse métamorphose.